Le temps de l'Avent, c'est ce temps qui liturgiquement nous sépare de la naissance du Christ. Pour les Juifs de l'Ancien Testament, qui ont attendu, certains d'entre eux en tout cas comme la Vierge Marie, qui ont attendu la naissance du Sauveur, eh bien ça a pris beaucoup de temps. Isaïe est celui qui donne le signal à l'attente prophétique identifiée par la Vierge qui va concevoir et qui donnera un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu parmi nous. C'est Isaïe qui lance aussi, eh bien, la description de cette royauté de paix et de justice que le Christ inaugurera. Mais voyez-vous, Isaïe prédit la naissance de l'Emmanuel et au 8e siècle avant notre ère. L'attente, l'avant pour les hommes de l'Ancien Testament a été très long. C'est pourquoi nous aussi, il nous faut relativiser certaines dates, certaines annonces prophétiques qui peuvent être faites. Il faut vraiment scruter les signes des temps. Il prédit d'abord, avant que ne vienne cet Emmanuel mystérieux, vous parlez au 8e siècle de notre ère, avant notre ère, comme il était mystérieux, la figure du Messie, il prédit, Isaïe, la chute du royaume du Nord, ce royaume de Samarie, ce royaume qui, encore plus que le royaume du Sud, eh bien, s'était écarté de Dieu et avait rejeté la foi. Et juste après, eh bien, il fait l'annonce du roi juste, ce Messie. Justice et paix s'embrassent, dit le psaume, et c'est exactement le contenu de ce passage que nous venons de lire, que nous venons d'entendre. La paix et la justice. Oui, il fera justice, et il fera justice aux pauvres du pays, dit Isaïe, et il punira tous ces riches insolents qui détournent le peuple de la foi et qui en même temps oppriment le peuple matériellement. L'annonce du roi juste, c'est... Il précise, Isaïe, que la paix sociale, cette harmonie sociale inimaginable qu'il décrit, eh bien, où les enfants ne risquent plus rien, ni des serpents, ni de quelques animaux sauvages, et les pauvres ne risquent rien non plus. Mais tout cela se fait à l'aune de la connaissance de Dieu. Je relis le passage. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Il n'y aura plus de mal parce que les hommes connaîtront Dieu. Or, pour connaître Dieu, eh bien, Israël va en mettre du temps. Il lui faudra vivre deux exodes successifs, à deux siècles d'intervalle, pour être dispersé au milieu des nations, et pour qu'enfin un petit reste de ce peuple, eh bien, revienne, fasse un retour sur lui-même, et se dise qu'en perdant Dieu, ils avaient tout perdu, et qu'ils se convertissent. Mais le retour de l'exil, c'est toujours un peu éphémère, et c'est devenu assez national. C'est devenu la lutte pour l'indépendance d'Israël, sous le temps de ce qu'on appelle la dynastie des Maccabées, et au temps de l'occupation des Grecs. Et puis ils ont fait appel pour vaincre leur ennemi définitivement aux Romains. Et les Romains, ben nous le savons, ça nous ramène à l'époque du Christ, en ont profité pour faire ce que les Grecs avaient fait avant eux, c'est-à-dire tout conquérir. Voyez, quand on veut faire alliance avec le diable, rien de bénéfique ne réussit. Ça ne sert à rien. Ainsi, c'est une belle leçon, je dirais, pour l'Église de notre temps, lorsqu'elle est tentée de faire alliance avec le monde contemporain pour faire croître le royaume de Dieu sur la terre. Ça ne marche évidemment jamais. Seule une prédication vigoureuse comme celle de Jean-Baptiste est capable de redonner à l'Église sa force et sa vérité profonde. L'Église n'est pas là pour ronronner à l'instar du monde et sur les musiques qu'il nous propose. L'Église est là pour instaurer, pour préparer la venue du Seigneur. Alors quand on sait ça, eh bien, d'emblée, on connaît le langage et les concepts qu'il faut manier. Le Christ sera certes un jour un signe pour les nations. Isaïe nous montre la montagne de Sion, c'est-à-dire Israël, qui désigne en fait l'Église. Parce que Israël, certes, a accueilli le Sauveur il y a 2000 ans, mais la conversion reste encore à venir, elle n'est toujours pas ce signe pour les nations. Le signe pour les nations, c'est l'Église. Mais l'Église, comme Israël, comme Isaïe l'avait annoncé à Israël, eh bien, devra être purifiée. Et nous assistons aujourd'hui à une lente mais profonde purification de l'Église. Jean-Baptiste au désert, c'est-à-dire dans un lieu à l'abri de la culture humaine, des parasites du monde social, des hommes sans Dieu, eh bien, Jean-Baptiste, c'est le même esprit que le prophète Isaïe en son temps. Il propose une purification pour accueillir le Messie. Il n'accueille pas les gens en leur disant « Ah, vous êtes super, vous êtes venu me voir, vous êtes très bien. » Il leur dit « Bon, vous êtes venu, vous avez une chance d'être sauvé, mais purifiez-vous. » C'est ce qu'il dit notamment aux pharisiens et aux sadducéens, et avec un ton extrêmement tranchant, parce qu'ils soupçonnent évidemment que leur démarche ne s'accomplit que dans l'extériorité, tandis que l'intériorité de leurs âmes demeure loin de Dieu. Un esprit nouveau, c'est ce que Isaïe et Jean-Baptiste nous proposent. Un esprit nouveau pour les hommes, un baptême dans l'esprit et dans le feu. Ce Messie, c'est, et vraiment Jean-Baptiste insiste, on voit bien le contenu de sa prédication. Il annonce un sauveur, mais il annonce aussi celui qui est tellement plus grand que lui-même, qui vient seulement préparer le chemin de celui qui doit venir. C'est le juge des vivants et des morts, c'est le juge divin. Et la loi qu'il propose n'est pas une loi à option, c'est une loi sacrée. Une loi qu'il faut accomplir, loi d'amour et de vérité. Et le feu que Jésus vient, nous dit Jean-Baptiste, répandre sur la terre est à la fois un feu d'amour, il sauve, il illumine, comme disait Isaïe, il illumine le peuple qui gisait dans les ténèbres. Oui, il illumine par sa présence et par la loi nouvelle qu'il donne, par cet amour inimaginable dont il nous communique la force et la possibilité de le vivre. Mais c'est aussi un feu purificateur, c'est le feu qui conduit eh bien, tous ceux qui refusent cet amour dans les flammes éternelles, ce feu qui ne s'éteint pas. Alors le feu, il est double. Pour les justes ou pour les injustes. Jean-Baptiste nous montre eh bien, comment prêcher. Si on compare tous les textes, il y a un contenu moral, il explique aux gens comment mettre en pratique la loi de Dieu. Il y a un contenu eschatologique, comme aujourd'hui. Il nous parle, il parlait déjà à ses contemporains, à la fois de celui qui devait venir en son temps, mais aussi de la fin des temps, parce que, comme Isaïe lui-même l'avait fait avant lui, il voit dans le Messie quelque chose de récapitulatif, pas seulement quelqu'un qui vient débloquer une situation historique donnée, pour redonner à Israël un coup de pouce, pour reprendre le cours de l'histoire, mais aussi celui qui récapitule toute l'histoire. Et c'est vrai que le règne harmonieux, le règne social là, de justice et de paix dont parle le prophète Isaïe, en nous parlant des animaux, les carnivores, les prédateurs qui renoncent à leur nature et qui mangent du foin comme les herbivores. et qui vivent à côté paisiblement, et les enfants qui mettent la main dans le trou de la vipère, qui jouent avec le cobra. Tous ces animaux symbolisent les hommes en réalité, parce que sinon ce serait juste le paradis dont nous parlerait Isaïe. Or il nous parle des hommes, moralement, ceux qui sont comme des serpents, ceux qui sont comme des prédateurs, ceux qui sont comme des herbivores, spirituellement parlant. Eh bien tous ceux-là, oui, un jour seront convertis par la connaissance de Dieu, mais non pas tous. Et ceux qui ne voudront pas seront traités comme la paille dont parle Jean-Baptiste. Alors voilà, dans cet avant, dont nous ne connaissons pas le terme, nous sommes sur le chemin, nous savons que Jésus est venu. Mais Jésus viendra de nouveau, dans sa gloire. Et Jésus, évoquant ce retour, dira à ses disciples, « Mais lorsque je reviendrai, y aura-t-il encore la foi sur la terre ?» Nous comprenons que notre vocation de croyant nous associe à Jean-Baptiste. Comme lui, nous devons préparer les chemins du Seigneur, rendre droit les cœurs, c'est-à-dire ses sentiers.